Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Aujourd'hui, Biotope s'intéresse à l'habitat collectif avec le projet Habitaire.
Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Le projet Habitaire apporte une réponse concrète au droit fondamental de chacun de bénéficier d'un logement abordable, adapté à ses choix de vie. Il s'inscrit dans la mouvance de l'économie solidaire, dans un climat de simplicité et de partage des savoirs et des biens, car il est géré dans un cadre coopératif. Il repense le mode de vie et l'organisation du quotidien selon une approche et des valeurs de développement durable. Sa démarche est guidée par des valeurs humanistes, de partage, de mise en commun, d'entraide et de complicité. Avec moi dans le studio, Alain Guillet et Michael Palandre, tous deux membres du projet Habitaire. Le principe de Habitaire, c'est de rassembler des familles qui ont envie de vivre ensemble et qui ont chacune des apports financiers pour bâtir une construction écologique autogérée, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. Donc ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que ce qui lie Habitaire, c'est cette charte collective, cette charte coopérative qu'on a construite une fois avoir monté la SCI, la partie juridique. Et c'est vraiment ça qui fait la spécificité d'une SCI. Une SCI traditionnelle n'a pas forcément une charte coopérative. Nous, on a construit avec les quatre fondateurs de base, on a construit cette charte coopérative que les autres après ensuite ont validée. Donc, et cette charte est vraiment la base de notre projet de vie. Et c'est ce qui lie l'ensemble. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des bases du projet Habitaire, c'est les parties communes. Et on a voulu vraiment mettre le point sur la maison commune, qui fait quand même partie d'un tiers de la surface des deux premiers bâtiments, donc qui n'est pas rien, et qui permet en fait déjà aux habitants d'avoir un lieu commun, tout en ayant donc leur intimité respectée, ce que je parlais au départ. C'est vraiment un choix dans la charte, c'est-à-dire que chacun ait son espace privé. On a tous vécu, autant qu'on est, des moments de vie communautaires, et on sait que la partie intime, elle est importante pour que le projet collectif commun vive bien. Donc cette maison commune a ce rôle-là, de nous permettre de nous retrouver. Mais elle a aussi un rôle d'accueil des gens de l'extérieur, des habitants du Diwa, des projets qu'on a envie de monter ensemble et de permettre comme ça d'avoir un lieu avec une cuisine, une grande salle de vie, des hébergements au-dessus, des chambres d'amis, quoi, nos chambres d'amis, de permettre cet accueil-là et des projets collectifs comme ça.
Les parties communes, elles ont été décidées comment ? Quelles sont-elles déjà ? Est-ce que c'est une laverie ensemble, une commune, un jardin commun ?
Alors, il y a des choses qui, vraiment, on n'a pas lâché. C'est-à-dire qu'il y a cette grande salle de vie, cette cuisine qui était vraiment la base. C'est les repas. Hein. C'est vrai qu'on y passe quand même beaucoup de temps autour d'une table et on trouvait que c'était vraiment important d'avoir un espace qui permette ce genre de rencontre. C'est aussi, et c'est ce qu'on a tenu jusqu'au bout, c'est un four à pain. Parce qu'on est deux à faire du pain régulièrement, deux familles à faire du pain. Et on trouvait que c'était un lieu vraiment important de rencontre. Et on a bien sûr des lieux comme la buanderie, comme un atelier de réparation, un local vélo. Donc on a des espaces sanitaires pour des accueils handicapés. Ça aussi, on y tenait par rapport à une dimension sociale. Voilà, un petit peu après, il y a tous les jardins, bien sûr, qui sont en construction. On n'a pas encore vraiment tout planté parce que c'est du boulot.
Et une capacité d'accueil également.
Alors, ces chambres qu'on a constituées, en fait, moi je prends l'exemple de notre maison. Nous, on a 4 enfants, on a à peu près 120 mètres carrés. Et on a fait le choix de ne pas avoir de chambre en plus dans notre maison privée, mais d'avoir des chambres dans la partie commune qui nous permet, quand on a des amis, de la famille, qui puissent être hébergés directement là-bas. Partager des chambres, c'est vraiment le souhait pour limiter nos espaces individuels. Donc ces chambres, elles sont ouvertes. On les ouvre à des personnes, à des amis des autres habitants et des fois à des personnes qui viennent dans la salle faire une activité dans le cadre d'Habitaire.
J'imagine que la réalisation est assez conséquente puisque vous êtes assez nombreux à partir là-dessus. Vous avez donc une demande de terrain plutôt lourde. Comment réagit la mairie de Dijk ?
C'est un peu atypique, c'est sûr. Hein. Le terrain était accessible à l'achat. Hein. Il n'était pas au départ précisément en vente. C'était des rencontres avec des gens que les uns et les autres connaissaient. Lorsqu'on a posé le permis de construire auprès de la mairie, on a rencontré l'architecte conseil au niveau du CAUE, on a rencontré l'architecte conseil de la mairie d'Audy, qui ont validé la construction et qui ont trouvé le projet intéressant. Donc on n'a pas eu de frein du tout de la commune. Au contraire, je pense qu'il y a eu une grande ouverture et on a apprécié cette ouverture. L'ancien propriétaire Marcel Borel, qui est maintenant quelqu'un qu'on voit régulièrement, a eu plaisir à partir sur ce projet-là avec nous et à voir vivre du collectif sur ce lieu. Vis-à-vis du Diwa, c'est un projet qui est énorme. On le reconnaît, moi je vis dans le coin depuis quelques années, et on voit bien que pour le Diwa, c'est un gros projet.
Vous, c'est l'acquisition du terrain s'est faite en 2010. Aujourd'hui, on est 2 ans après, les maisons ont poussé. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que tout le monde a sa maison?
Alors, le projet avance, puisqu'on a la tranche 1, les deux premières maisons se sont construites avec l'aménagement autour quasiment en une année, puisque dès le mois d'août dernier, on a déjà eu des familles qui se sont installées, même mois de juin dernier, donc ça fait 1 an pour la première famille. Donc on a mis beaucoup d'énergie pour faire des aménagements de terrain et que ça soit viable. Aujourd'hui, il y a 2 autres maisons qui sont sorties de terre. Et puis les autres foyers, d'ici la fin de l'année, devraient voir le jour. Et il restera une dernière maison qui va s'installer un peu coincée entre les trois. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de maisons. C'est vrai qu'on a un peu comme un lotissement, c'est-à-dire qu'on a sur 7000 m², on a 5 maisons. Mais c'est un choix de limiter le terrain et d'avoir un maximum de construction sur ce terrain.
Et en parcourant votre site internet, on lit des mots comme vivre ensemble, autre rapport à la propriété également. Il y a cette idée-là de partage.
Voilà, on peut très bien ne pas se croiser pendant une semaine, c'est possible. Pascal et Joël sont les personnes qui gèrent, on va dire, le projet financier et juridique. Ils ont un peu la tête construite autour de ça et ils sont très forts. Donc on les accompagne là-dessus, mais on les voit moins sur le quotidien. Mais c'est pas pour autant qu'on vit pas du collectif.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Le projet Habitaire est porté par des habitants qui ont une volonté de vivre un projet collectif tout en ayant une intimité respectée.
C'est la réflexion du vivre ensemble, se réapproprier le quotidien, de choisir ses voisins et puis d'avoir de bons liens, de bonnes affinités avec ses voisins, et aussi de se réapproprier le principe de la construction, c'est-à-dire de mettre notre nez dans les petites affaires des architectes et des entreprises pour voir ce qui s'y passe et puis trouver des choses cohérentes et surtout qui correspondent aux habitants et au type d'habitation que l'on souhaite faire, nous, collectivement. C'est un projet donc collectif qui est né sous l'initiative de plusieurs personnes, dont Marc Bodinier et sa femme Marino, ainsi qu'Alain Guillet et sa future femme bientôt Odile, et puis aussi des amis à Marc et Marino, Pascal et Joël. Donc ce sont ces trois foyers qui ont vraiment initié le projet.
Le résultat, c'est la concrétisation de ce projet Habitaire. C'est une réussite.
Alors aujourd'hui, on n'a pas à parler de réussite. Je crois que le fonctionnement de Habitaire est parti de rencontres avec 3 ou 4 familles et aboutit aujourd'hui à une construction autour de 5 maisons et totalise à peu près une vingtaine d'adultes et une douzaine d'enfants. Donc on peut parler de réussite, oui, mais disons que c'est un très beau projet collectif qui ne fait que commencer puisque les habitants ne sont pas encore tous là.
Est-ce qu'il y a eu des points de blocage, de friction, des choses un petit peu plus compliquées à mettre en place?
On peut parler de blocage à partir du moment où on tente de vivre ensemble du quotidien. Je crois que c'est pas du blocage, c'est de l'apprentissage collectif de chaque individu et d'apprendre à faire des concessions dans des choix collectifs.
Combien ça coûte à peu près un projet comme celui-là à mettre en place?
On peut parler financier, mais je pense que ce qui est important à savoir, c'est que chacun, aujourd'hui, chaque famille qui s'est investie dans le projet s'investit à hauteur de l'achat d'une maison. Et on est dans des coûts tout à fait cohérents par rapport au Diwa, qui donnent accès à ce type d'habitat aujourd'hui à des gens qui ont quand même une mise de fonds de départ. C'est-à-dire que le souhait au tout début de la création d'Habitaire, de la SCI, c'était bien de permettre l'accès à ce type d'habitat à n'importe qui, Aujourd'hui, les 10 foyers qui sont là, c'est 10 foyers qui ont apporté une mise de départ qui a permis la construction des maisons. L'idée bien de ce projet, c'est de permettre après que des gens qui n'ont pas cette mise de fonds de départ puissent vivre ce type d'habitat. Donc c'est en travail, il y a des projets qui se développent sur le Diwa et on accompagne ces projets-là pour que ça puisse se faire comme ça.
Pour vous contacter ?
Alors on a un site qui a été mis en route depuis un petit moment et qui vit bien maintenant. Donc il suffit de taper Habiter en Diwa et on tombe sur le site du projet d'habitat collectif. Et là, on a toutes les infos en détail sur le système et le fonctionnement d'Habiter.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Habiter n'est pas une association au départ, c'est une SCI. Pourquoi avoir fait ce choix de SCI ?
L'objectif même d'Habiter, c'est bien de gérer un patrimoine mobilier. Donc la SCI le permet dans son statut juridique. Et aujourd'hui, c'est la seule forme juridique qui permet d'héberger ce type de projet. Ensuite, ça permet justement aux habitants de prendre des parts sociales à la SCI, d'être donc propriétaire de parts sociales à hauteur de son capital financier. Donc à hauteur, l'idéal, c'est de son mètre carré, hein, nous, on a 120 mètres carrés. On a essayé d'acquérir le nombre de parts au regard de nos mètres carrés. On n'y est pas, puisqu'on n'a pas les moyens financiers pour la totalité. Donc, de ce fait-là, on a trouvé, et par le biais de la SCI justement, une confiance auprès de la NEF qui nous a permis de faire des pré-relais, de trouver des solutions collectives pour permettre l'investissement des bâtis. On n'est ni propriétaire du terrain, ni propriétaire du bâti.
Et pour imaginer un peu, comme le disait Alain, moi je dirais que le statut de SCI, de société civile immobilière, c'est pas la bonne case, parce que la bonne case, elle n'existe pas encore en France, mais c'est la meilleure case.
Est-ce que juridiquement, dans d'autres pays, on a des exemples plus efficaces, on va dire, ou qui ont été reconnus, je ne sais pas, peut-être en Allemagne ?
Oui, je pense qu'ils ont trouvé des solutions. Il y a des communes qui le trouvent, hein, même en France. Hein, à Strasbourg, ils ont développé quand même des achats collectifs. Alors, ça rassemble à plutôt la copropriété, voilà. Donc, dans une similitude à la copropriété, des groupes de personnes vont acheter un immeuble et vont pouvoir construire indépendamment d'un constructeur à côté, eux-mêmes, leur maison individuelle, mais en commun. Donc c'est des choses qui avancent et je pense que par l'expérience, en laissant le temps faire, les choses vont avancer et vont permettre de construire un statut clair au niveau des habitats collectifs aujourd'hui en France. Donc si on est parti aujourd'hui sur un statut de SCI avec une charte coopérative, c'est bien parce qu'il n'existe pas aujourd'hui encore vraiment un fonctionnement, une structure juridique type habitat collectif posé. Donc cette charte coopérative avec ce montage SCI nous permettra de glisser facilement lorsqu'un statut d'habitat collectif va s'inscrire en France. Je pense que ça va venir, mais aujourd'hui c'est pas encore instauré et nous on est prêt à glisser justement ce montage vers le statut juridique d'habitat collectif lorsqu'il existera.
Est-ce que de tête comme ça vous pouvez me décrire cette charte éthique ?
Nous, on appelle ça charte coopérative.
Ouais, c'est la charte coopérative. Bah, tout à l'heure, Michael, on a cité quelques points. Hein. Il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier constructif qui est clair sur des choix de matériaux, sur des choix de travail avec les artisans. Ça, c'est une première chose. Il y a le pilier vie collective qui est très fort sur justement cette partie commune et ce choix de vie en commun avec cette intimité respectée qui est vraiment très clair. Ensuite, il y a tout le côté lié à l'environnement, de façon générale, où on va faire un appui assez fort sur le volet environnement, que ce soit le jardin, que ce soit les récupérations d'eau de pluie, tout ce travail-là qui est pointé sur cette charte. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est des choses de vie quotidienne. Hein, aide-moi, Michael, si j'en oublie. J'en oublie, c'est sûr. Hein.
C'est-à-dire que c'est un outil qui est assez interne. Donc, on a discuté entre nous là-dessus. C'est un outil qui est en cours de construction, d'élaboration aussi. C'est-à-dire que là, on ne vit pas encore ensemble. On le redit, il y a quatre familles qui vivent depuis l'été dernier. Il y en a qui vont vivre vraiment sur place à partir de juin-juillet. Les derniers, ça sera à la fin de l'année, début 2013. Donc, cette charte coopérative... elle sera vraiment claire dans nos têtes et dans la tête de chacun, je dirais, peut-être encore dans 6 mois, parce qu'il y a des choses qui vont s'y rajouter, s'y préciser, parce que pour le moment, je dirais qu'on en est à l'étape du brouillon. Mm-hmm. Donc c'est un petit peu, on est en train de parler de notre brouillon de charte coopérative. Donc il y a des grands axes, il y a des fondamentaux qui paraissent évidents pour chacun, donc voilà, Alain vient de les citer. Après, ça va, voilà, c'est sans cesse en train de se préciser, se peaufiner.
Michael, tu es du Diwa au départ ?
Non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Comment as-tu entendu parler de ce projet ?
Alors, c'est souvent l'occasion qui fait le larron et des bels hasards. Et c'est Marc Bodinier et Marino sont les parents d'un copain qu'on connaît de Toulouse. Et en venant dans le coin, voilà, ce copain-là nous avait dit « Ah, bah, faudrait que vous alliez voir ce que mes parents, ils ont un projet. » Et nous, en habitant là, bah, ça faisait 3-4 mois qu'on louait une maison. J'ai croisé le papa de ce copain, Marc, à la pharmacie. Donc il m'a dit « Ah, bah, faut que vous veniez voir. » Et on est venu voir. Et au départ, c'était simplement par curiosité, voir le projet, discuter. Et Marc m'a dit « Mais nous, on a un terrain, on construit des maisons, on cherche des gens. » Et du coup, à force d'en discuter, à force d'aller voir ce qui s'y passait, le projet collectif et le projet d'habitat groupé nous a plu. Et on a embarqué on a pris le train en marche à ce moment-là.
Il y a un côté aussi militant dans la démarche. Est-ce que ça a été également quelque chose sur lequel vous vous êtes retrouvé ?
Alors, moi, je suis très pudique avec ce mot de militantisme, c'est-à-dire que je vais répondre spontanément plutôt non à ce genre de questions, mais c'est quelque chose qui est en accord avec moi, ma manière de vivre, que j'ai envie d'appliquer au quotidien. Il y a des choses que je trouve absurdes. Donc tout naturellement, je vais choisir une certaine manière de vivre et du coup de m'entourer de ces gens-là. Et donc, quand on commence à discuter à l'extérieur et qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des gens qui ne voient pas les choses comme nous, on se dit effectivement, c'est peut-être un petit peu un acte militant. Moi, c'est pas mon tempérament d'aller fédérer, convaincre d'autres gens. Voilà.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges. Toile d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux, on allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout nu, tout noir, avec les petites filles et les à l'usine et au supermarché, les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Pas si mal, et c'est normal, c'est le progrès.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Je continue avec toi, Michael. Est-ce que tu peux nous donner, toi, personnellement, combien ça t'a coûté ?
Moi, je veux bien parler du prix, mais si je parle du prix, je risque d'être un petit peu long. Parce que quand on parle du prix, il faut dire qu'est-ce qu'il y a derrière le prix. Je dis ça parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de décalage entre un prix, qu'est-ce qu'il y a derrière, et on compare des choses qui ne sont pas comparables, et les gens se font de fausses idées. Il faut réfléchir autrement l'achat soit d'une maison, soit de parts de SCI, parce qu'en l'occurrence, on achète des parts de SCI. Donc, au final, on n'est pas propriétaire, c'est la SCI qui est propriétaire. Ce que ça nous coûte avec Caroline, ma compagne, donc pour le moment on a une petite fille de 2 ans, on va avoir 115 mètres carrés et ça devrait nous coûter, parce qu'encore une fois c'est des estimations qui sont de plus en plus précises, mais on aura vraiment la capacité de dire ça a coûté tant d'euros une fois que vraiment les choses seront finies. Ça va être aux alentours, on estime ça de 230 000 euros pour les 115 mètres carrés, avec la participation au terrain et la viabilisation au terrain. Sur le prix de revient constructif, on est à peu près à 2000 euros TTC, je précise, 2000 euros TTC de la construction de l'habitat groupé, sachant que certaines parties communes ne sont pas comprises dans ces 2000 euros.
2000 euros le mètre carré.
2000 euros le mètre carré, c'est ce que ça pourrait nous coûter, nous, avec le terrain. Mais surtout, on peut pas comparer la manière d'investir dans ce genre de projet avec l'image collective que chacun de nous a avec l'achat d'une propriété ou d'une maison. Parce que c'est pas comme un promoteur immobilier qui va dire « Ok, on construit tant de maisons qui vont faire telle surface avec tant de terrain et ça va coûter tant. » C'est-à-dire que on a eu un petit peu la prétention de mettre notre nez dans le principe constructif, dans le projet, pour trouver les meilleures solutions économiques pour chacun. Donc, à partir de ce moment-là, on est toujours à tendre vers quelque chose qui soit le moins cher possible par rapport à la qualité qu'on souhaite. Et tant que c'est comme ça, on peut toujours avoir des bonnes surprises, mais des moins bonnes surprises, et le curseur peut bouger. Alors que si on voulait dire à l'avance à une jeune famille, vos 100 mètres carrés, ils vont vous coûter tant, chacun prendrait une petite marge de sécurité pour être sûr de s'y retrouver et pas de travailler à perte. Et dans ce cas-là, on retombe sur le schéma un peu classique et conventionnel que fait un promoteur immobilier.
Parce qu'on peut le rappeler aussi, toute la construction se fait sur le tard, ensemble. C'est-à-dire que vous n'avez pas décidé dès le départ que ça sera comme ça. Vous n'aviez pas forcément une idée de finalisation concrète et du coup, des choses en amenant d'autres, on se retrouve sur des surcoûts, des surprises.
Voilà, on a surtout décidé que chaque acteur du projet, que chaque personne qui va intégrer Habitaire soit partie prenante et décisionnaire de ce qu'il souhaite faire comme habitat. Donc à partir de ce moment-là, déjà les gens ont des envies, ont des idées, puis confrontés au reste du groupe et au collectif, ces envies elles changent parce qu'on se dit « Ah oui, finalement, ça peut être qu'esthétique, ah je pourrais faire ça comme lui », mais ça peut être aussi sur une cohérence. Je prends un exemple un peu tout bête, mais il y a deux habitantes qui viennent de Paris, elles avaient des choix, des goûts à se dire on va faire ça comme ça, puis après elles se sont rendues compte que par rapport à la cohérence du projet, c'est à 10, c'est pas ailleurs, etc., finalement sur leur finition elles changent d'avis, elles changent d'idée en cours de route, donc forcément à chaque fois le prix estimé ne peut pas être juste.
Il faudra donc attendre la fin de la construction en 2013 pour faire l'addition et connaître le prix au mètre carré.
Alors disons que le prix exact au mètre carré, on le connaîtra effectivement début 2013 quand ça sera fini. Aussi, surtout parce qu'il y a beaucoup d'autoconstruction qui est pris en charge par les habitants. Donc ça dépend de quels habitants. Certains s'y plongent beaucoup dedans parce qu'ils aiment ça et qu'ils ont envie de faire ça et qu'ils ont les compétences de le faire. Par contre, dès le début, on a toujours eu des prix d'objectifs qui ont été entre nous, donc Alain parlait de 1400 euros le mètre carré, des prix d'objectif qu'on a pu discuter avec les architectes, avec les maîtres d'œuvre, pour dire voilà quel est le prix d'objectif. Donc ça pose quand même un canevas sur le principe de construction et sur l'ensemble du programme.
Une fois qu'on est dans cette SCI, qu'on a vu sa maison se réaliser avec les parties communes, et que la vie fait qu'il y a des changements et qu'on a envie de partir, est-ce que c'est possible ?
Alors ça c'est une question importante et c'est quelque chose dont on a parlé assez vite, et donc c'est quelque chose qu'on s'est dit tout de suite, qu'il fallait que les entrées et les sorties du projet qu'elles devaient être le plus facile possible. Donc c'est justement la charte coopérative qui accompagne les statuts de la SCI qui le permettent, où on a précisé cela, où si une famille souhaite partir, et ben simplement elle revend les parts qu'elle a à la SCI à une autre famille. Après, on a mis un petit principe sur le fait que si soit la personne ne trouvait personne, soit si les gens proposés par les gens qui partaient ne convenaient pas au reste du groupe, si par exemple c'est une jeune famille qui part et puis il n'y a que des personnes âgées ou à la retraite qui viendraient pour un équilibre, une question de cohérence dans l'équilibre du groupe, les gens ne souhaitaient pas que ces personnes-là viennent, la SCI s'engage, alors je crois que c'est au bout de 3 mois, de racheter quand même les parts des personnes qui souhaitent partir pour qu'elles puissent partir. Et après la SCI continue sa vie et son histoire en cherchant les personnes qui seraient le plus idéales pour intégrer le projet.
Il y a une chose que je veux rajouter qu'on n'a peut-être pas parlé, on l'a effleuré tout à l'heure, c'est au niveau de cette maison commune. Elle vit aujourd'hui, cette maison commune, parce qu'on a développé le principe d'épargne solidaire, c'est-à-dire qu'on a ouvert les parts sociales à des gens de l'extérieur, c'est-à-dire à des personnes qui croient au projet, qui souhaitent prendre des parts sociales au projet et donc placer entre guillemets leur argent sur Habitaire, tout en n'étant pas contraint de placer cet argent sans pouvoir le réutiliser. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a une cinquantaine de sociétaires extérieurs qui ont placé financièrement qui ont pris des parts sociales et qui ont permis la création aujourd'hui de cette maison commune. Donc sans eux, sans cette solidarité, on va dire, financière, on n'aurait pas enclenché ce qu'on a créé aujourd'hui au niveau de la maison commune. Donc c'est important puisque c'est des partenaires, c'est des gens qui croient au projet, qui vont être là, qui sont là lors des chantiers collectifs ou pas, mais qui sont informés de ce qui se passe, à qui on ouvre aussi la porte d'Habitaire sur des projets qu'ils peuvent avoir. Et c'est sans eux, on n'aurait pas cette maison commune. Donc je pense que c'est vraiment important.
Alors sur la construction en tant que telle, vous avez travaillé beaucoup avec une entreprise qui s'appelle Arter. Comment s'est fait la rencontre ?
On est arrivé à un moment un peu clé du développement de l'entreprise Arter, où Alain Arnaud avait déjà développé des expériences sur Ecubo. Et lorsqu'avec Marc, on est arrivé avec le premier plan qu'on avait réussi à aboutir un petit peu, lorsqu'on est arrivé avec ces plans dans son bureau, automatiquement, ça a été directement on y va. Donc autant on y va, nous, parce que moi, je connaissais déjà Alain. Et puis Marc a tout de suite accroché aussi. Et puis on y va du côté d'Alain, parce que pour lui, c'était l'occasion de développer son concept de construction, d'avoir des expériences de construction, et puis d'avoir aussi une vitrine de ce qu'il fait. On parle de tous les artisans, hein, parce que Arter fait partie des grosses structures avec lesquelles on a travaillé, parce que c'est la construction de base, hein, c'est l'ossature bois, donc c'est du clos couvert, c'est toute la partie isolation, toiture, mur, façade. Donc sur la deuxième tranche, il y a aussi première aussi, mais c'était pas la même entreprise. On a travaillé avec des entreprises locales. Donc Marchioni pour la première, et ensuite on est parti avec la famille Bress, Manu et Yvon. Il y a eu vraiment un beau travail de coopération avec les artisans, et c'est ce qu'on cherche avec les artisans. On cherche vraiment à travailler ensemble. On a vraiment réussi à le mettre en place sur la première tranche parce qu'on était maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'on a pris la partie de maître d'œuvre, maître d'ouvrage, pardon, je confonds toujours.
Maître d'ouvrage, oui, mais maître d'œuvre aussi, Marc a fait la maître
voilà,
d'œuvre.
Voilà, si maître d'œuvre de la partie de construction, c'est-à-dire que les architectes, on a pris cette responsabilité et on a donc suivi avec les artisans la construction. C'était pas une mince affaire. Mais ça a permis d'avoir un vrai travail de coopération avec les artisans, et c'était très très chouette. Voilà, donc on parle des artisans, et à côté des artisans, bien sûr, il y a tous les gens avec qui on travaille, c'est-à-dire on achète les matériaux. Donc avec Quintessence, on a réussi à avoir une cohérence très intéressante et un travail très proche pour trouver des solutions, puisque les produits écologiques aujourd'hui sont encore difficiles d'accès financièrement, c'est clair. Donc ils ont osé travailler avec nous pour trouver des solutions. Et parce qu'on est aussi à plusieurs, on peut se permettre d'acheter aujourd'hui des produits de matériaux accessibles financièrement. Voilà. Puis bon, on ne parle pas de tous les autres locaux chez qui on se fournit pour essayer de trouver des solutions locales.
Alain Guillet, Michael Palandre, merci beaucoup pour vos éclaircissements sur le projet Habitaire, et à bientôt.
Merci.
Merci, à bientôt.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. top.
Un programme soutenu par BioValley.